Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la philosophe Monique Cantos-Perber, le professeur de relations internationales Bertrand Badie, le politologue Dominique Régnier et la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann. Au sommaire de ce dimanche 23 juin, France, sommes-nous condamnés au chômage de masse? Et le monde de Donald Trump, stop ou encore? Vendredi dernier, 21 juin, en plus de fêter l'été et la musique, il y avait eu une autre bonne nouvelle. L'INSEE prévoyait une nouvelle réduction du chômage. À la fin de l'année, celui-ci devrait tomber à 8,3% contre 8,8%. Pas mal, même si le taux de chômage dans la zone euro était à 7,8% dans les derniers baromètres, ce qui continuait de faire de la France un élève médiocre en matière d'emploi. Le taux de chômage le plus faible ayant été enregistré en Allemagne, 3,1%, le taux le plus élevé en Grèce, 18%. Il y avait donc toujours ce mystère français, comme une fatalité du chômage hexagonal, alors même que des entreprises qui voulaient recruter n'y parvenaient pas. Près d'une entreprise sur deux dans les services, plus d'une sur deux dans l'industrie et deux sur trois dans le bâtiment. Et on avait même entendu cette semaine les restaurateurs d'Avignon lancer un cri d'alarme parce qu'ils ne trouvaient pas les bras nécessaires dans les cafés et les restaurants en prévision du festival. Difficulté à trouver les bonnes recrues en France, disaient les employeurs, évoquant aussi comme frein à l'embauche le coût du travail, le niveau des salaires, la situation économique toujours fragile et les réglementations dont le coût du licenciement. Les Français qui présentaient un autre handicap, ils n'étaient pas très mobiles, peu enclins à changer de région pour trouver un emploi. Sans oublier l'argument récurrent, notre système d'assurance chômage serait trop confortable et n'inciterait pas suffisamment au retour à l'emploi. C'est dans ce contexte qu'était intervenu cette semaine ce qu'un journal avait appelé le traitement de choc du docteur Macron, destiné à la fois à faire baisser le chômage, mais aussi à économiser 3,4 milliards d'euros en 3 ans sur les comptes de l'UNEDIC. Mesure principale, un bonus-malus sur les contrats courts dont usaient et abusaient certains secteurs en France, avec les fameux contrats d'usage. Le changement des règles d'accès à l'indemnisation. Demain, il serait nécessaire d'avoir travaillé au moins 6 mois au lieu de 4 pour y avoir droit. Quant aux cadres, ils verraient décroître de 30% leur indemnisation au bout de 6 mois, dès lors que leur salaire d'origine s'élevait à plus de 4 500 euros bruts par mois. Bref, une nouvelle réforme pour envoyer le message que l'élan du changement se poursuivait en France, mais qui dérangeait beaucoup de monde. Syndicats de salariés, de patrons, tous les partis d'opposition dénonçant un projet à la fois injuste et hors sujet.
Plus le festival d'Avignon approche, plus Julien s'inquiète. Il a besoin d'un CDD en cuisine et depuis qu'il a passé son annonce, un seul candidat s'est manifesté mais sans succès.
Une personne toute seule en cuisine s'en sortira pas, on va faire 200 couverts minimum par jour, elle n'y arrivera pas toute seule.
Dans le Vaucluse, il y a 3000 offres d'emploi pour 1800 demandeurs dans la restauration. Ici, au bord du Rhône, Jean-Marc est obligé de limiter le nombre de clients pour assurer la qualité du service car il lui manque de personnes en salle.
Dominique Régnier, pourquoi les restaurateurs d'Avignon ne trouvent personne et qu'est-ce que ça dit de la France, des Français, de notre marché du travail ou de notre rapport au travail ?
En tout cas, c'est un sujet de politique publique qui est presque éternel, on peut dire, en France. Chacun qui nous écoute a sans doute à l'esprit ce problème comme resté sans solution depuis plusieurs décennies maintenant. C'est ce qui fait, vous le disiez dans votre introduction, Émilie Aubry, c'est ce qui fait la singularité de la France, très objectivement, au sein de l'Union européenne comme au sein de l'OCDE, puisqu'on ne trouve que, sur les 36 pays de l'OCDE, on n'en trouve que 29 pays font mieux que nous et 6 font moins bien que nous. Donc on est vraiment une singularité internationale, vous aviez raison de le rappeler. Mais on est aussi un pays dans lequel ni la droite ni la gauche n'ont réussi à répondre de manière significative à ce problème. Donc, on peut penser qu'il y a des éléments de rigidité du marché de l'emploi, quoique des réformes aient pu être faites. Ça reste tout à fait explicatif comme cause. Ça touche d'ailleurs tous les secteurs. J'en profite pour dire que On est frappé de voir à quel point l'agriculture en France comme secteur se dégrade, perd sa capacité exportatrice. On en parle moins peut-être dans le cadre de l'indemnisation du chômage, évidemment, mais c'est cependant la même cause qui produit ce résultat, le fait que les Allemands exportent davantage que les Français des produits agricoles maintenant, est lié aussi à la structure du travail, aux cotisations sociales, à la complexité réglementaire. Donc il y a un mal français que les différentes majorités n'ont pas réussi à démêler, mais sans doute aussi parce que dans la société française, il y a une espèce de consentement, quelque chose comme cela, un consentement non dit à cette situation. La France restant, alors c'est un thème qui est devenu fameux maintenant, mais la France restant sur la question du travail assez largement dotée d'une culture de la rente, du statut qui n'est pas nécessairement le statut de la fonction publique, hein, mais il y a d'autres statuts protégés en France. Le CDI en France est un statut assez bien protégé et avec assez peu de considération au fond pour ceux qui n'arrivent pas à entrer dans le monde du travail ou ceux qui font sans cesse des allers-retours, qui sont donc, comme l'on dit, des actifs précaires. Et finalement, on n'a pas accepté collectivement des réformes qui auraient touché tout le monde, peut-être de façon relativement limitée, afin de favoriser soit l'entrée dans ce monde du travail de ceux qui n'en sont pas partis, soit qui n'en sont pas membres, soit la sécurisation de parcours devenus très, très précaires.
Alors, confrontée, Monique Cantos-Perber, à ce que Dominique Régnier appelait à l'instant ce mal français et ce consentement, finalement, ou ce que moi j'ai appelé fatalité à cette situation de chômage quand même assez conséquent, est-ce que cette réforme que propose ce gouvernement-là est à la hauteur ?
À la hauteur de la situation, essayer de donner quelques éléments laissant à nos auditeurs la possibilité de l'apprécier eux-mêmes. Mais en tout cas, c'est une réforme qui est tout à fait dans la cohérence de ce qui a été fait jusqu'à présent. Et d'ailleurs, je salue la détermination. C'est dans le prolongement de la libéralisation du marché du travail acquise en 2017 et de la réforme de l'apprentissage aussi, qui manifestait un souci pour l'adaptation au bassin d'emploi. Donc, d'une certaine façon, avec cette réforme, le gouvernement veut définitivement rompre avec la période post-crise, puisque la situation où nous nous trouvons en matière d'assurance chômage aujourd'hui, et en particulier pour l'accès à l'indemnisation, et résulte des mesures exceptionnelles qui ont été prises à partir de 2009, donc pour encaisser le choc social de la crise. Donc si ces mesures qui nous ont été proposées, vous les avez rappelées pour l'essentiel, rendent plus difficile l'accès à l'indemnisation chômage, proposer une dégressivité pour les salaires les plus élevés, enfin pour les allocations
pour les, cadres,
les plus élevées,
à partir de 4 500 euros brut.
Enfin, ça concerne les cadres, mais également des choses plus positives, puisque l'assurance chômage est également étendue aux indépendants et aux démissionnaires. Ça, c'est un point important. Et il y a des
solutions. Oui, c'est vrai, qui étaient peu soulignées.
Pour la formation également, et des contraintes nouvelles sur les entreprises pour les contrats courts, contraintes que tout le monde s'accorde à trouver modeste. Alors, quelle est la philosophie derrière tout cela ? Eh bien, c'est une philosophie, d'une certaine façon, assez classique, je pourrais même dire banale, qui est centrée sur le comportement individuel des chômeurs et qui vise à développer un système d'incitation pour renforcer la propension de retour à l'emploi. Et de fait, les chiffres de Pôle emploi confirment que plus l'allocation chômage est élevée, plus la durée d'indemnisation est lente et étendue. Puisque, pour donner l'exemple qui a été le plus souvent cité, les 15 000 chômeurs qui reçoivent comme allocation chômage 5 000 euros environ restent en général un an et demi au chômage. Tandis que le 1 million et quelques de chômeurs dont l'allocation chômage est inférieure à 1 000 euros restent en moyenne 9 mois au chômage. Donc là, on semble avoir une donnée intéressante qui va permettre de proposer une mesure ciblée qui permettrait de ramener un certain nombre de personnes dans l'emploi. Ce qui est visé, c'est 200 000 chômeurs pour les 3 ans qui viennent. Alors ça, c'est le premier but. Le deuxième but, c'est un but budgétaire, évidemment. Il y a 3 milliards 400 millions à trouver quand même. C'était la charge qu'avaient les partenaires sociaux qui ont négocié jusqu'en février, qui ont été incapables de se mettre d'accord. Là, on assiste à une reprise en main de l'état d'une négociation que les partenaires sociaux ont été incapables de mener jusqu'à son terme, ce que je déplore. Je déplore
la reprise en main
par l'État et je déplore l'échec des partenaires sociaux, bien évidemment. Puis le troisième but, d'une certaine façon, c'est inévitablement un but de communication. Là, le gouvernement, en quelque sorte, a eu un relatif succès aux élections européennes. Le mouvement des Gilets jaunes est à peu près éteint. Donc, tous les sondages montrent que la plupart des Français considèrent en effet que la politique de chômage et des indemnisations sont trop généreuses et qu'il faut mettre un peu d'ordre là-dedans. On parle des cadres qui font le tour du monde avec leur indemnisation chômage. Donc, tout cela, d'une certaine manière, va dans l'air du temps. Alors, est-ce que ces trois buts, en quelque sorte, vont être atteints par la réforme telle qu'elle est, si vous permettez de dire encore d'apporter quelques éléments là-dessus. En termes budgétaires, c'est certain. Il y aura certainement des économies, puisque beaucoup moins de chômeurs seront indemnisés. Ça va de soi. Si je peux vous donner des chiffres, actuellement, il y a un chômeur sur deux qui n'est pas indemnisé. Alors, si on veut apprécier l'efficacité de la réforme, déjà, la moitié des chômeurs, la moitié des 5 600 000 chômeurs ne sont pas concernés. Leur comportement ne va pas changer puisque cette incitation ne va pas jouer sur eux.
Ça concerne notre
parti. Il reste qu'une moitié des chômeurs. Sur cette moitié des chômeurs, les enquêtes même de Pôle emploi insistent sur le fait que 88% d'entre eux cherchent activement un travail. Donc on peut penser que ce système d'incitation ne va pas modifier grand-chose. Donc ce qui reste, en effet, c'est les 12% de chômeurs qui sont inscrits à Pôle emploi et qui, semble-t-il, sont assez déconnectés du marché du travail. Et là, évidemment, on se demande si des mesures de ce type vont être efficaces. J'insiste sur le fait que la remarque qui a été faite de corrélation nette entre le montant d'allocation et la durée d'allocation aurait dû inciter à une réforme de dégressivité générale. Logiquement, c'est ça qui en découle.
Ouais.
Renforcer les conditions d'accès à l'indemnisation vise une catégorie de population qui est tout à fait, en effet, qui pour une partie d'entre elles, profite peut-être du système qui consiste à multiplier des contrats courts sur une longue période, de telle sorte de combiner, de maximiser en quelque sorte, droit au chômage et période d'emploi. Mais pour cette catégorie-là de la population, il me semble que le message dissuasif, restriction des conditions d'indemnisation, ne peut pas être le seul message. Il faut un investissement massif en termes de formation et de réflexion sur les bassins d'emploi. Et je regrette que cet aspect-là du problème n'ait pas reçu des solutions à sa hauteur.
La question, en effet, de la formation, de l'accompagnement des chômeurs, Sylvie Kaufmann, puisqu'on sait aussi que dans cette réforme, Pôle emploi va avoir désormais 1000 nouveaux postes pour accompagner les chômeurs, c'est évidemment dérisoire. C'est vrai qu'on a envie de comparer cette réforme qui nous est là proposée à cette grande réforme allemande, à la fois très critiquée et en même temps vantée par d'autres comme courageuse, les fameuses lois Hartz. Qu'est-ce qu'il y a comme point commun entre ces deux manières d'aborder le problème du chômage?
Vous citiez tout à l'heure la moyenne de européenne et la place de la France mauvaise dans cette moyenne.
Et les 3% de chômage en Allemagne.
Ouais. Mais en réalité, ce vers quoi il nous faut tendre, c'est pas tant retrouver la moyenne qui est, je crois, de 6%, enfin selon qu'on regarde la zone euro
autour de 7%,
ou l'Union européenne, ouais. Voilà, c'est entre 6 et 7%, ou un peu plus, mais de se rapprocher des pays qui semblent avoir vraiment vaincu le chômage de masse, c'est-à-dire l'Allemagne, les Pays-Bas, les pays scandinaves.
Même si on va rétorquer tout de suite qu'en Allemagne, c'est l'explosion des mini-jobs, etc.
Voilà,
etc.
Mais ils ont, par exemple, l'Allemagne a tout à fait bien résisté à la crise de 2008 par rapport aux autres pays, parce qu'elle avait déjà fait ses réformes avec ses fameuses lois Hartz. Alors, en effet, je vais revenir sur les lois Hartz, ces réformes de l'assurance chômage qui sont proposées par le gouvernement français, se rapprochent de ces modèles-là. Par ce changement de mentalité qui est rendu nécessaire entre un modèle qui était passif, si on peut dire, c'est-à-dire le chômeur ou le demandeur d'emploi reçoit une allocation et attend qu'un autre emploi qui lui convient se présente. Et on bascule là vers ce modèle qui est plutôt celui de l'Europe du Nord, qui est un modèle d'incitation au retour à l'emploi, d'incitation active avec donc le retrait, le durcissement des conditions d'accès à l'indemnisation, le modèle dégressif donc pour les cadres dont on a parlé, etc. Mais pour moi, la différence fondamentale, alors il y a des différences de bien entendu, de modalité, tout ça n'est pas du tout collé sur les lois Hartz ou sur le modèle de flexicurité danois dont on a beaucoup parlé, ou encore le modèle suédois. Il y a des similitudes, mais il y a aussi certaines pas mal de nuances. Pour moi, la différence fondamentale, c'est dans la méthode. C'est-à-dire, comment est-ce que ça s'est passé, les lois Hartz? Ça a été une commission qui a été mise sur pied, qui a travaillé pendant 6 mois. Et cette commission, elle était constitué de représentants du gouvernement, de syndicats, de patrons, d'employeurs, d'universitaires, de chercheurs. Et ces gens ont travaillé ensemble pendant 6 mois et ils se sont mis d'accord, sous la houlette de ce fameux Peter Hartz, qui était l'ancien DRH de Volkswagen et qui était un membre du Parti Social, du SPD et du syndicat IG Metall. Et donc, et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de se mettre d'accord. En février, on fait un diagnostic d'échec. Les partenaires sociaux, le patronat, le gouvernement n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et à partir de là, les partenaires sociaux et les employeurs se lavent les mains et disent c'est à l'État de gérer. Et Laurent Berger a donné une interview à Libération que je trouve très intéressante parce qu'on voit qu'il est amer là-dessus. Il est à la fois lucide et amer. Il dit voilà, on a échoué en février à se mettre d'accord. Et donc, on a dit l'État, c'est à l'État de le faire. Et bien voilà, maintenant l'État gère. Et donc, les partenaires sociaux qui devraient être partenaires, comme l'on dit, contributeurs à cette grande négociation qui est très importante, à cette réforme qui est très importante, parce que Muriel Pénicaud l'a dit, et tous les pays qui sont arrivés au plein emploi l'ont fait, n'ont pas pu faire l'économie d'une réforme de l'assurance chômage. C'est une espèce d'étape obligatoire. Mais c'est mieux de la faire ensemble. Et à côté de ça, on a maintenant, et c'est l'autre spécificité française finalement, c'est les partenaires, les syndicats se défaussent sur l'État, et les employeurs aussi, le patronat aussi d'ailleurs, se défaussent sur l'État, vous gérez, et donc comme ça on pourra dire ça va pas, c'est un échec, ça marche pas, on n'est pas d'accord. Et ça c'est vraiment, pour un tel changement de mentalité dont on voit qu'il est nécessaire sur cette réforme, qui est importante, il faut un consensus, il faut que ce projet soit partagé, que ça soit une vision partagée, voilà, et qu'on puisse en négocier les modalités, parce que les lois Hartz, comme vous l'avez dit, ont eu beaucoup d'effets positifs, mais ont eu aussi des effets négatifs qui sont une augmentation de la précarité, les mini-jobs, une augmentation de la pauvreté, parce qu'aujourd'hui, en France, la grande pauvreté est inférieure à celle de l'Allemagne. Donc, on pouvait s'inspirer des choses bénéfiques de ces lois, tout en bénéficiant de leur expérience et essayer d'en corriger les effets négatifs. Je crains que cette occasion soit manquée par manque de concertation.
Il y aurait donc deux spécificités françaises dans notre relation à l'emploi. Bertrand Badi, c'est ce qu'on essaie de les lister ensemble ce dimanche matin dans ce studio de France Culture. Donc une sorte de fatalité d'acceptation de ce mal français du chômage, ce jacobinisme que vous avez tous souligné avec cet échec des partenaires sociaux. Et puis il y a quelque chose sur lequel je voudrais vous faire revenir. Bertrand Badi, je sais que ça vous a marqué en préparant cette émission, c'est cette inversion des priorités. C'est-à-dire pendant des mois, des années, la question de l'emploi et du chômage était en tête des préoccupations des Français. Ces dernières semaines, notamment on l'a vu au moment du grand débat, c'est le pouvoir d'achat qui revient en premier. Comment expliquer cette inversion-là ?
Alors, d'abord, j'aime pas le mot mal français, parce que il est extrêmement réducteur. Il y a un problème de gestion de la question du travail et du chômage en France. C'est pas un mal français, il n'y a pas une fatalité qui distinguerait notre pays des autres.
Le deuxième en élément, il y a des chiffres qui n'évoluent pas beaucoup.
Oui, d'accord, mais mal français, ça veut dire tout de suite une pathologie dont seraient plus ou moins responsables certains des acteurs de la société française. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Le deuxième élément, c'est que c'est plus qu'une inversion. C'est une contradiction. Et ces contradictions, dans ce que j'entends et qui m'impressionne, parce que je n'ai pas cette connaissance technique des questions du chômage, je suis plus dans le Sahel ou Moyen-Orient que dans les questions du chômage.
On y vient dans un moment.
Mais il y a quand même des contradictions fortes qui jalonnent tout ce qui a été dit. Premier élément, effectivement, en moins d'une génération, c'est la transformation de la culture du travail. C'est-à-dire que le travail était installé dans nos cultures depuis la fin du 19e siècle comme étant structuré, organisé, stable, et tout d'un coup, effectivement, vive la précarité, vive la flexibilité. Et on voit bien, même les étudiants qui finissent chez nous leur cycle d'études, sont pas pressés d'avoir un travail définitif, prennent un petit emploi, un petit job, même s'ils sont surdiplômés, puis on verra bien après, etc., etc. Ce qui crée une situation culturelle en France qui est totalement différente de ce que les acteurs politiques avaient l'habitude de gérer. Deuxième élément, c'est une contradiction parce que on nous apprend en même temps plus que les vertus, l'obligation de sécurité. Tous les comportements sociaux, je pense que Dominique sera d'accord, tous les comportements sociaux sont structurés autour de l'obsession sécuritaire. Sécurité à tous les niveaux. Et tout d'un coup, la notion de sécurité de l'emploi s'évapore. Comme si, effectivement, la sécurité était légitime face à toute une série de questions liées au climat, liées au terrorisme, liées à la situation internationale, liées aux homicides ou aux risques d'agression dans la rue, mais qu'en fait, le problème de la sécurité de l'emploi ne devient plus un enjeu structurant. Ce qui est extrêmement dangereux, parce qu'effectivement, vous avez raison de dire que la question de l'emploi devient moins importante dans la détermination des votes et des comportements politiques, mais en même temps, celles et ceux qui s'y trouvent confrontés sont à ce moment-là dans une situation de réactivité très forte. On l'a bien vu avec les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est personnellement touché, à ce moment-là, la vieille sève sécuritaire remonte à la surface. Alors, du coup, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une sorte de brouillard politique pour gérer cette question. C'est-à-dire qu'il n'y a plus véritablement une ligne programmatique. Il n'y a plus de programme. Moi, ce qui me frappe, c'est que au moment des élections, il n'y a pas programme contre programme sur la question de l'emploi, du travail, du chômage. Et de ce fait, il y a ce mélange de bricolage gouvernemental qui généralement n'aboutit pas à des résultats spectaculaires et de rhétorique qui fait que la question est complètement sortie du débat politique.
C'est du bricolage gouvernemental, cette réforme, Dominique Reynier ?
Bricolage, non, je ne dirais pas ça, ce serait désobligeant. Pardon, c'est un...
On peut parfois l'être aussi.
Oui, oui, non, enfin...
Je laisse ça, quoi, si je comprends.
Oui, mais je veux dire, quand même, on peut faire une mauvaise réforme, mais on peut bricoler, ça signifie qu'on a mal travaillé ou que c'est bâclé. C'est le résultat, je trouve, moi, même dans le détail, même dans l'affaire du bonus-malus, c'est le résultat de cette volonté politique... De ne fâcher personne et de ne pas toucher à ce consensus dont je parlais et comme le disait Sylvie Kaufmann, dont les syndicats français sont particulièrement illustratifs, qui est une espèce d'accord honteux. C'est ça le mal français, un mal se soigne. Hein. Cet accord un peu honteux pour parler du chômage, dire que l'on s'en préoccupe, mais en réalité, ne pas faire en sorte que ce problème soit mieux réglé. Il y a un accord entre les segments de l'opinion pour protéger les secteurs qui sont déjà assurés de perdurer, autant qu'on puisse le savoir pour un futur relativement proche. Les syndicats sont tout à fait sur cette position-là. Ils ne veulent pas perdre le poids qu'ils ont relatif sur ces secteurs-là, en prenant le risque d'une réforme qui ouvrirait davantage, qui rendrait plus fluide l'accès au monde du travail. Tout cela se fait dans un accord général. Et au fond, l'absence d'accord entre les syndicats et les pouvoirs publics pour une réforme de fond comme les Allemands ont su la conduire, c'est, je suis désolé, l'absence de courage collectif devant la nécessité...
C'est-à-dire qu'on fait toujours des politiques de petits pas en matière d'emploi ?
Oui, parce qu'on ne veut pas ce grand aggiornamento qui permettrait de redistribuer l'ensemble des cartes sans imaginer une révolution qui bouleverserait tout, mais enfin, de mettre davantage ceux qui ont des positions plus assurées en quelque sorte contributeur à une réforme qui profiterait à ceux qui sont en
danger. Et alors même que lorsqu'au début de ce quinquennat, on a eu les ordonnances travail, on a beaucoup dénoncé un changement culturel massif de la France. Ça a quand même donné lieu à un certain nombre de débats dans notre pays, Sylvie Kaufmann.
En réalité, c'est peut-être le côté positif, puisqu'on s'attache beaucoup, et moi la première, à déplorer cette absence de dialogue social et à en souligner les conséquences négatives. Mais en réalité, l'opinion publique, elle a déjà pas mal basculé, et Laurent Berger le souligne aussi d'ailleurs, à l'issue du grand débat, on a vu que les gens, une majorité de Français soutiennent une réforme de cette vision de l'assurance chômage, comme ils ont soutenu la réforme de la SNCF, en fait. Donc, en réalité, on va peut-être y arriver, d'autant plus que le chômage, grâce à la croissance, à la petite croissance, est déjà en train de baisser. Donc, on est sur une tendance favorable à cette évolution. Mais je trouve qu'on est à nouveau confronté à notre problème de représentativité en France, qu'on voit bien dans le domaine politique, dans le paysage politique. Et je parlais des syndicats en Allemagne, aux Pays-Bas ou dans les pays scandinaves, mais le taux de syndicalisation est absolument pas comparable avec le nôtre. Il est beaucoup plus fort. Donc les syndicats sont considérés comme représentatifs, alors que la CFDT, qui est maintenant la première organisation syndicale en France, c'est quoi, 600 000 adhérents, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc on a à nouveau cette espèce de consensus social qui émerge, qui essaye de se former, mais qui n'a pas vraiment les fameux corps intermédiaires qui nous manquent tant. On a du mal à les définir.
Et une dernière question sur cette thématique-là pour la libérale que vous êtes, Monique Kantosperber, puisqu'on constate bien qu'en France, ce marché de l'emploi, il ne s'auto-régule pas. Je rappelais les chiffres tout à l'heure, près d'une entreprise sur deux dans les services, plus d'une sur deux dans l'industrie, deux sur trois dans le bâtiment, qui ne trouvent pas de main-d'œuvre aujourd'hui, alors même qu'on recrée de l'emploi en France. Voilà donc une limite du libéralisme dans ce domaine-là, dans notre pays.
Bien sûr, mais le libéralisme ne signifie pas que les entreprises fonctionnent et recrutent, en particulier en dehors d'un contexte économique. Il faut absolument en tenir compte. Sylvie Kaufmann évoquait très précisément les réformes qui ont été conduites en Allemagne, mais la caractéristique de ces réformes est que la dégressivité arrive très vite et très rapidement, les personnes passent à la solidarité nationale.
Et de façon générale.
Ils ne sont plus indemnisés, ouais. D'où la multiplication de mini-jobs qui avaient véritablement, partiellement modifié la structure sociale de l'Allemagne et amené une recrudescence de la pauvreté. Je reviens sur le point suivant. Beaucoup d'études, en effet, semblent indiquer que dégressivité des allocations signifie retour à l'emploi plus rapide, encore que n'oublions pas que ça a été pratiqué entre la fin des années 80 et les années 2000. Hein, la dégressivité, on n'a pas remarqué véritablement une restriction du chômage ou une diminution du chômage.
C'est donc une dégressivité quand même assez faible.
Qui était assez faible. Il reste que ce qui m'étonne dans cette réforme, c'est que ce principe de la dégressivité, qui semble assez justifié, ne soit pas appliqué sinon pour les cadres et les plus hauts revenus. En revanche, ce qui est durci, j'insiste encore sur ce point, c'est les conditions d'accès à l'assurance chômage. C'est-à-dire
c'est de 4
ce
à 6
comportement
mois.
Caractéristique, si je puis dire, j'ose pas dire de la débrouille à la française, parce que malheureusement ce sont des personnes qui vivent de peu et dans des conditions très difficiles, mais qui consistent par nécessité ou peut-être par choix, je ne peux pas l'exclure, à alterner une quinzaine de 2 semaines d'emploi, 2 semaines de chômage, enfin 2 semaines d'interruption d'emploi, 2 semaines.
Jusque-là, il fallait avoir travaillé 4 mois pour relancer ses droits au chômage. Maintenant, ce sera 6 mois.
28 mois, maintenant, ce sera 6 mois sur une période plus longue, ce qui fait que cet arrangement, en quelque sorte, encore une fois volontaire ou involontaire, sera bridé. Donc, l'essentiel de la réforme, en fait, porte sur cela. Et sur ça, on peut quand même poser des questions, parce que beaucoup de ces personnes procèdent ainsi, tout simplement parce qu'elles n'ont pas la formation pour aspirer à autre chose, ou bien parce que dans leur bassin d'emploi, on ne leur propose pas autre chose. Les restaurateurs d'Avignon sont extrêmement sympathiques, et pour tous les amateurs du festival dont je suis, en effet, on souhaite qu'ils finissent par recruter leur personnel. Mais que proposent-ils? Des contrats temporaires de quelques semaines. Il ne s'agit que de cela. Donc c'est ça quand même la caractéristique de ces secteurs d'activité. Donc à mon sens, et là, puisque vous m'interrogez en tant que libéral, je voudrais insister sur la nature propre de mon libéralisme. Cette réforme, elle est tout à fait justifiée dans son principe ou dans son orientation générale. Je n'ai rien à dire là-dessus. En revanche, il ne fallait pas procéder comme ça. Il fallait s'appuyer sur les corps intermédiaires, s'appuyer sur les représentants des différents syndicats, s'appuyer sur des expérimentations aussi, prendre en compte l'impact sur les conditions d'existence des personnes, parce que les centaines de milliers de personnes qui vont sortir de l'indemnisation, ce sont quand même des familles avec des enfants qui vont se retrouver dans des circonstances assez grandes de détresse sociale. On ne peut pas ignorer cet aspect-là. Et en revanche, donner avant même que des réformes de ce type soient menées, ou en même temps qu'elles sont menées, des atouts aux acteurs sociaux et en particulier aux plus démunis pour pouvoir d'une certaine manière
si je résume
en termes de formation, en termes d'incitation à la réorganisation des offres d'emploi et puis aussi en termes d'innovation réglementaire. On développe des CDI hybrides, on réfléchit sur des CDI qui seraient gérés par des plateformes entre différents employeurs à proximité. Il y a une véritable innovation. N'oublions pas que nous sommes dans une période de mutation technologique avec des conséquences sur les modalités d'emploi.
Donc, vous diriez en résumé,
pour ouvrir le champ de la réflexion et ne pas, en quelque sorte, mettre des personnes dans ce qui va être inévitablement une trappe à pauvreté, sans leur avoir donné parallèlement les outils pour se repositionner dans l'activité sociale.
Vous diriez donc à la fois insuffisante et injuste cette réforme, Bertrand Badi ?
Oui, je voudrais ajouter un point, notamment en écho à ce que disait Sylvie Kaufmann il y a un moment. Méfions-nous dans l'action gouvernementale des faux effets de majorité. Ça, c'est devenu un élément tout à fait clé des mauvaises surprises de l'action politique. C'est-à-dire, effectivement, une opinion publique peu mobilisée a tendance à considérer qu'un projet est bon, qu'il mérite d'être soutenu. On a besoin d'un nouveau statut de la SNCF, on a besoin de nouvelles lois sur le chômage, etc. Puis après, on reprend son feuilleton télévisé.
Besoin de réduire la dette de l'UNEDIC.
Je ne discute pas. Non mais attendez, c'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que il y a de plus en plus se banalisant des faux effets de majorité qui donnent au gouvernement l'impression d'avoir un soutien fort. Or, on s'aperçoit que l'action politique se traduit davantage dans les réactions fortes de minorités directement impliquées. Le chômage passe en second, en troisième, en quatrième position, mais quand il se passe quelque chose à Belfort, on l'a vu hier, la mobilisation est extrêmement forte, extrêmement rude. Et les Gilets jaunes, c'est ça aussi d'un certain point de vue. C'est-à-dire la capacité de surmobilisation d'une minorité qui se sent attaquée, mise en difficulté. Et ça, c'est un peu le nouveau jeu politique.
Allez, conclusion, Sylvie.
Oui, juste, c'est vrai que le gouvernement joue aussi sur le fait que les chômeurs sont rarement des gens qui se mobilisent. Et d'ailleurs, oui, enfin, sauf sur des cas précis, comme vous dites, des suppressions d'emplois massives dans une entreprise, par exemple. Mais on a bien vu, les Gilets jaunes ne se sont pas mobilisés pour les chômeurs. Ils se sont mobilisés pour le pouvoir d'achat.
Il y avait une masse importante de chômeurs.
Il faut juste rappeler quelque chose qui fausse aussi les comparaisons. L'Allemagne a les résultats qu'on a rappelés dans cette première partie d'émission, avec un excédent budgétaire annuel désormais significatif. La France a un taux de pauvreté qui est meilleur, avec un taux d'endettement de 100% par rapport au PIB. On a derrière nous cette énorme montagne, et eu égard au respect des générations futures, dont on ne parle jamais en termes budgétaires, mais souvent en termes environnementaux, ce qui est logique, mais en termes budgétaires, ça devrait être conséquent, il y a là quand même une obligation d'agir. Et il y a en effet les 36 milliards de dettes de l'UNEDIC, il faut bien, si on pouvait ne pas les laisser aux générations qui viennent, ce serait quand même plutôt une bonne réforme. Et ça suppose des changements profonds. Et lorsque les syndicats sont réunis par le gouvernement et ne se mettent pas d'accord entre eux, c'est peut-être pas tout à fait la faute du gouvernement qui les a réunis, c'est peut-être aussi la faute des syndicats qui, en réalité, moi je suis affirmatif là-dessus, ne veulent pas prendre la responsabilité de réformes qu'ils jugeraient impopulaires et préfèrent laisser la patate chose au gouvernement.
Et sur l'inadéquation que nous soulevions tout à l'heure, l'inadéquation justement de ce pays qui recrée de l'emploi et ses patrons qui ne réussissent pas à embaucher, qu'est-ce que cela dit encore une fois et comment on répond à cette pathologie française-là ?
Eh bien, on y répond, je pense aussi, par une politique de formation. Aujourd'hui, un chômeur a 40 minutes d'entretien dans les premiers mois de son inscription à Pôle emploi. La réforme propose, dès l'entrée dans le chômage, deux jours de formation avec un bilan très net et une exploration des possibilités d'emploi dans l'environnement proche. Voilà, et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Mais j'insiste sur le fait, puisque ça n'a pas encore été développé jusqu'à présent, et c'est un point important, que le principe de la dégressivité pour les cadres, qui aura, je pense, vocation à s'étendre, mais sonner le glas de la conception assurantielle et contributive de notre système d'assurance sociale. Et ça, c'est une mutation vraiment tout à fait importante qui est annoncée depuis 2 ans et qu'on voit peu à peu se mettre en place. Les cadres profitent pour 15% de leur, et contribuent pour 42% au système, profitent pour 15%. La dégressivité, en quelque sorte, sanctionne, enfin met un terme à l'idée que chacun reçoit selon sa contribution.
Allez, on va maintenant quitter la France, direction les États-Unis, où le taux de chômage d'ailleurs est autour de 3%, et Donald Trump, qui aime tellement être président qu'il rempilerait bien pour un second mandat.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Saviez-vous que dans la nuit de jeudi à vendredi, tandis que vous dormiez paisiblement, on avait peut-être frôlé le déclenchement d'une guerre aux répercussions massives? Le président américain Donald Trump aurait approuvé une opération militaire devant cibler des installations iraniennes en mer d'Oman avant de se raviser et d'annuler les frappes au dernier moment, avait écrit le New York Times vendredi 21 juin. Aucun missile n'avait donc finalement été tiré et l'opération avait été annulée à 19h30 heure de Washington, 1h30 du matin à Paris. Le président américain avait ensuite commenté abondamment ce revirement sur Twitter et sur la chaîne de télévision NBC, expliquant qu'il avait changé d'avis pour épargner des vies humaines. Ce climax de tension faisait suite à l'affaire dite du drone. Toujours cette semaine, jeudi, l'Iran avait abattu un drone américain se trouvant, selon Téhéran, dans son espace aérien, près du détroit d'Ormuz, ce que contestaient les États-Unis. L'affaire du drone faisant elle-même suite à l'affaire dite des tankers. Jeudi 13 juin, le Kokuka Courageux, un navire japonais transportant du méthanol, avait essuyé des tirs en mer d'Oman, près toujours du stratégique détroit d'Ormuz, tout comme un autre pétrolier transportant lui du nafta, le Frontalter, propriété d'un armateur chypriote d'origine norvégienne. Ces attaques n'avaient pas été revendiquées, mais Donald Trump en était sûr. Derrière ces attaques, il y avait l'Iran. Voilà qui rappelait bien sûr à certains les fausses preuves irréfutables des armes de destruction massive irakiennes, dont l'existence avait été avancée pour justifier l'invasion de 2003, mais dont Washington n'avait jamais trouvé la trace. Tandis que d'autres voyaient surtout l'habituelle méthode trumpienne en matière de politique étrangère, mettre la pression brutalement, puis négocier, comme on l'avait vu faire avec la Corée du Nord. En attendant, il était inquiétant de se dire que cette politique du chaos trumpien pouvait encore durer des mois, voire des années, puisque cette semaine, pour couronner le tout, on avait aussi eu droit au meeting confirmant l'entrée en campagne de Trump pour un second mandat. Il devenait définitivement difficile de dormir sur ses deux oreilles.
Nous allons continuer à nous battre pour chaque homme, chaque femme et chaque enfant de ce pays. Avec tout notre cœur, notre force, notre sueur et notre âme. Nous allons continuer à rendre sa grandeur à l'Amérique. Et nous allons, en effet, garder la grandeur de l'Amérique. Nous allons garder l'Amérique si grande, plus grande qu'elle ne l'a jamais été. Et c'est la raison pour laquelle je me tiens devant vous ce soir pour lancer officiellement ma campagne pour un second mandat de président des États-Unis.
Voilà comment, sous les cris d'une foule enthousiaste, Donald Trump a lancé mardi en Floride sa campagne pour l'élection présidentielle de 2020. Bertrand Badi, comment vous comprenez cette histoire insensée cette semaine de revirement au dernier moment avant de déclencher des frappes sur des cibles iraniennes ?
Alors, il y a un récit, on n'est pas obligé de croire au récit.
Certes.
C'est-à-dire, même si Donald Trump nous a habitués à des attitudes un peu fantasques, le fait qu'il ait découvert 10 minutes avant le moment fatidique que c'était dangereux et qu'il valait mieux faire autre chose n'est pas très crédible. En revanche, le récit qui en ressort a une signification très forte. D'abord... d'expliquer aux Iraniens, vous avez vu, j'ai été tout à fait au bord d'eux, donc la prochaine fois, je serai pas au bord, mais je serai en plein dedans. Bon, c'est une rhétorique dans les situations de confrontation qui est assez banale. L'usage qu'il en a fait était un peu, effectivement, caricatural. Mais le fond du problème est ailleurs, c'est-à-dire on sait depuis que Trump a été élu président des États-Unis qu'une nouvelle diplomatie est mise en place, une diplomatie qui était jusque-là réservée aux petits et aux contestataires, c'est-à-dire une diplomatie de discours, une diplomatie d'affichage où il convient de parler et de dire. Et finalement, le propre de la diplomatie, il faut quand même pas l'oublier, c'est négocier, c'est de gérer des séparations. Là, non, c'est de parler, de s'exprimer, de faire de la démonstration. Démonstration auprès de son électorat, Ça, c'est véritablement une autoroute, parce que menacer l'Iran, c'est populaire auprès d'un électorat qui n'aime pas l'Iran, et depuis la fameuse prise d'otage de l'ambassade des États-Unis en Iran en 1979, auprès, il faut pas l'oublier, de ce que j'appellerais les acteurs secondaires, c'est-à-dire les acteurs du terrain moyen-oriental, et notamment entretenir cette alliance bizarre contre nature et qui a besoin de ciment, qui est l'alliance Tel Aviv, Riyad, Abu Dhabi et Washington. Il faut la faire vivre. Et la seule façon de la faire vivre, c'est à la Carl Schmitt, c'est-à-dire en lui faisant un ennemi sur mesure qui vient la souder. Tout ce qui se passe en ce moment contribue effectivement à faire vivre cette alliance souterraine, parce qu'elle n'est pas encore explicitée, ni encore moins institutionnalisée. Troisièmement, parler au monde aussi, dire, écoutez, vous voyez, moi, tout dépend de mes caprices, c'est-à-dire j'étais près d'eux et vous auriez dû le subir, et ben finalement j'ai décidé seul de ne pas, et vous en bénéficiez. Alors c'est extraordinaire, il ajoute même, vous voyez, maintenant on me considère comme une colombe, etc. Tout ça doit être décrypté, mais alors l'ennui derrière tout ça, l'ennui est très clair, c'est que la diplomatie de contestation ou d'affichage a une très grande faiblesse, c'est qu'elle n'a pas de stratégie. C'est-à-dire, elle ne peut pas déboucher sur un résultat. C'est exactement comme pour la Corée du Nord. Résultat, zéro. Parce qu'il n'y a pas d'enclenchement entre la rhétorique diplomatique, la contestation diplomatique et l'action diplomatique.
Et ça soulève en effet une autre grande question, Sylvie Kaufmann, c'est de savoir au fond si Donald Trump souhaite réellement la guerre. Et puis, une autre question secondaire, il y a ce qu'il pense lui, mais il y a aussi ce que pense son entourage. Et par exemple, le fameux John Bolton, dont j'imagine vous allez nous dire un mot dans un instant, ce qui renvoie en effet à cette problématique du corpus ou du credo géopolitique de Washington aujourd'hui.
Oui, là, on se demande si Donald Trump, en effet, n'a pas atteint les limites de ses contradictions et de cette politique que décrivait Bertrand Badie. C'est-à-dire que, d'un côté, il s'est quand même fait élire en disant « Je ne ferai plus de guerre, une grande puissance, un grand pays comme le nôtre s'abîme en s'engageant sans arrêt dans ces guerres au Moyen-Orient comme l'ont fait mes prédécesseurs, donc l'Afghanistan, l'Irak deux fois, etc. »
Faisant d'ailleurs d'une certaine manière que poursuivre ce qu'avait fait Barack Obama.
Voilà, mais le faisant à sa manière, à lui, plus forte et plus stridente. Donc, je ramènerai tout le monde à la maison. Et puis, d'un autre côté, l'Amérique est grande, elle est puissante, elle ne se laisse pas provoquer impunément. Donc, voilà, il faut manier ce paradoxe en permanence. Et on le retrouve dans cette décision. On ne sait pas vraiment ce qu'elle était exactement, mais donc, en tout cas, cette annonce. Les avions étaient en train de partir, je les avais lancés, on avait déjà déterminé 3 frappes précises et puis 10 minutes après, je les ai rappelés parce que quand même 150 morts, ça fait beaucoup et ça vaut pas la peine puisque dans mon drone, il n'y avait personne, donc il n'y a pas de victime américaine. Enfin voilà, c'est on a envie de dire...
Oui, c'est qu'il y a en plus une espèce d'habillage rationnel a posteriori.
Voilà, c'est aussi cette contradiction, c'est-à-dire je lance mes avions, mais je les rattrape au dernier moment. Voilà. Et donc, je suis prêt à négocier avec l'Iran, sans condition, mais s'il ne fait pas, si l'Iran ne cède pas, ça sera l'anéantissement total comme on l'a jamais vu précédemment, je traduis littéralement, voilà. Donc, là aussi, on a cette contradiction. Alors, l'autre contradiction, comme vous avez cité son entourage, lui, on voit bien Donald Trump qu'il est... probablement, il est sincère quand il dit « je ne veux pas la guerre », puisque c'est quelque chose qu'il répète régulièrement. Et il a donc fait cette promesse de ne plus s'engager inutilement ses troupes à l'extérieur. Mais son entourage, Mike Pompeo, le secrétaire d'État, donc le chef de la diplomatie, et ce fameux conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, sont... considérés de manière, je crois, très, très, tout à fait justifiée, comme des faucons, des gens qui, eux, sont en faveur d'un changement de régime et pas moins que cela à Téhéran, et donc le poussent à la faute, si je puis dire.
Oui. Voilà. Et belliciste et venant aussi d'une autre culture géopolitique, ou en tout cas d'une autre histoire, puisque l'homme à la moustache, le fameux Bolton, a conseillé Reagan, Bush père.
Tout à fait, il est d'une longue lignée de républicains plus belliqueux. Et puis, on le voit à l'œuvre dans d'autres sur d'autres théâtres, par exemple au Venezuela, c'est Bolton visiblement qui a poussé à l'affrontement avec un résultat totalement nul, puisque la situation au Venezuela est bloquée et qu'on essaye de, vaguement des négociations maintenant très discrètes en Norvège. Voilà, alors c'est très difficilement lisible tout ça, parce que c'est vrai que John Bolton, on le lit facilement, Donald Trump, on le lit moins facilement, mais les deux ensemble, c'est vraiment très très compliqué. Et donc les Iraniens, je crois, se trouvent dans une situation qui, eux aussi, ont leurs propres impératifs. Alors je ne suis pas spécialiste de l'Iran, je ne m'en lancerai pas dans un décryptage de la politique à Téhéran, qui a l'air largement aussi compliquée que celle de Washington. Mais on voit bien que là, on arrive à une sorte de moment de vérité. Si vous voulez, il y a eu la Corée du Nord où Trump est parti droit devant en disant voilà, mon cher Kim Jong-un, on va faire un deal formidable, etc. Ça n'a absolument rien donné. Sur le Moyen-Orient, le plan de son gendre est en train de se dégonfler d'une manière absolument lamentable. Le Venezuela, je l'ai dit, la Russie, on va nulle part. La Chine, on est en plein affrontement, on va voir ce que ça donne. Il s'est aliéné quand même une grande partie de ses alliés européens. Et d'ailleurs, on le voit bien là, par exemple, sur l'affrontement avec l'Iran. De même qu'avec la Chine, au lieu d'essayer de prendre les Européens dans son giron et de dire aidez-moi, soit à négocier, soit à soutenir ma position, les Européens sont totalement à l'extérieur. Donc on voit difficilement où est-ce que tout ça va mener, je dois dire.
On ne sait pas où cela va mener.
Je ne vais pas vous éclairer plus.
On se pose des questions et on se les pose d'autant plus qu'il y a eu aussi cette semaine l'annonce claire, nette et l'entrée en campagne pour un second mandat. Monique Cantrus-Perber, 4 ans de plus, reprenait régulièrement les soutiens de Trump dans la salle, même s'il y a aussi eu cette semaine ce sondage qui donnait Trump perdant face aux 6 favoris de la primaire démocrate. Là encore, c'est la question abyssale que tout le monde se pose. Est-ce que le chaotique Trump a perdu des plumes ces derniers mois ou pas ?
Les deux interventions qui ont précédé sont très justes en définissant la diplomatie comme style de déclaration emphatique, avec des images, un vocabulaire extrêmement imagé, suivi par une salve de tweets tous azimuts. Mais d'une certaine façon, c'est la même chose dans la politique intérieure. L'annonce de la candidature, c'était pareil. Une déclaration emphatique avec des partisans, parce qu'il ne fait des manifestations de ce genre que face à
des foules conséquentes.
À des foules tout à fait conséquentes. Et c'est vraiment bis repetita par rapport à 2015, à l'époque où il avait déclaré sa candidature au bas de l'escalator de la Trump Tower, là provoquant une sorte de moquerie et d'incrédibilité générale. Mais et d'une certaine façon, les discours étaient les mêmes, c'est-à-dire cibler le Parti démocrate, là, cibler Hillary Clinton presque 4 ans après, ouais. Cibler l'immigration, tout c'est exactement le même contenu, des promesses qui ont laissé sceptiques les spécialistes, éradiquer le sida, éradiquer
le cancer aussi.
Le cancer, envoyer des Américains sur Mars, et puis faire un plan santé, là, soudainement, dans quelques mois. Donc, attaque du socialisme radical et rêve américain. Mais ce qui est frappant, c'est que au fond, il n'a jamais cessé de faire campagne. Hein. Depuis qu'il est au pouvoir, il fait campagne. Des meetings de ce genre, il y en a eu près.
Est-ce que ce n'est pas le propre des leaders populistes que d'être en campagne permanente
avec ses fans? Et il a beaucoup plus d'atouts qu'il n'en avait en 2015. Il a une machine très bien rodée. Il a le Parti républicain derrière lui. Il a un bilan économique bon qui n'est pas mal. Il a une collecte de fonds déjà importante. Il est assuré de pouvoir faire des économies en termes de politique de communication, parce qu'à lui seul, il suffit à faire ça d'une certaine manière. Tous les journaux ne s'intéressent qu'à lui. Et on retrouve le même mélange, à la fois en politique extérieure et en politique intérieure, d'une sorte de triomphalisme intégral et de hargne. D'une sorte d'agressivité. Ouais. Il associe cette espèce d'appel à ses succès économiques et en même temps une sorte d'agressivité blanche qui n'a pas
Il a mis en effet
cessé.
En avant...
C'est toujours aussi fort, toujours aussi présent.
Il a mis en avant ce qu'il appelle les bons chiffres de l'économie Trump. Le monde entier envie notre économie qui est peut-être la meilleure économie de l'histoire de notre pays.
Mais il faut quand même... J'attends déjà si sur le point que, d'une certaine manière, après presque 4 ans de mandat, il n'a rallié personne. mais il n'a perdu personne. Et d'une certaine manière, vous évoquez la possibilité d'un échec et les sondages qui lui sont aujourd'hui défavorables, mais d'une certaine façon, avec ce discours très idéologique, il mise sur le fait que la campagne de sa réélection ne se jouera pas sur l'économie, elle se jouera sur ces thématiques-là.
Ça soulève d'ailleurs une vraie question, Dominique Régnier, après ce que nous a dit Monique Cantos-Perber. Que nous renseigne, en quoi nous renseigne l'histoire politique ? Est-ce qu'on peut gagner deux fois une élection présidentielle en faisant rigoureusement la même campagne ?
Moi, je ne crois pas. Je veux juste faire un petit retour en arrière, si vous me permettez, parce que ce qui a été dit sur l'Iran et sur Trump, et là aussi faire le lien avec la politique américaine domestique, mais avant que Trump fasse mine d'y aller pour ne pas y aller, je dois dire que je faisais partie des personnes qui le jugeaient capable d'y aller. Je pense que c'est ce climat qu'il a entretenu, en fait. C'est le gars dont on ne sait pas si, au fond, il n'est pas assez déraisonnable pour le faire. On sait maintenant que ce n'est pas le cas. Et je me demande quel signal ça envoie au monde, en particulier dans cette espèce de grande redistribution du pouvoir planétaire. Les conséquences que cette non-décision peuvent avoir sur la perception que le monde non occidental aura de ses marges de manœuvre désormais.
Ouais. Comme et si notamment c'était... les Poutine et Xi Jinping qui regardent cette géopolitique-là.
Je trouve qu'en fait, c'est une espèce de droit de passage inouï qui a été ouvert par Trump, possiblement en tout cas, et ça n'est pas nécessairement rassurant. Les effets domestiques sont probablement meilleur parce qu'on peut, on connaît en particulier auprès de l'électorat de Trump, on connaît l'attachement à la non-intervention, le côté isolationniste de ses électeurs. Donc là, il y a peut-être un calcul immédiat pour son propre compte, hein, et non pas n'évoquons même pas la question des effets sur l'intérêt à long terme du pays ou l'intérêt à long terme du monde, ça c'est indémêlable. Mais en tout cas, ce qui est certain, et la référence à Hillary Clinton était vraiment comique. Hein, si on veut refaire une campagne à l'identique, je ne crois pas qu'on puisse la gagner deux fois. Je crois que c'est pas possible. C'est un homme, c'est un tribun. C'est vrai qu'il fait campagne tout le temps, mais je dirais que c'est pas simplement la marque des populistes. Je crois que c'est la marque des présidents élus de faire campagne tout le temps. Je pense que c'est une nécessité de rôle, en fait.
Ça a toujours été le cas ou c'est le cas de notre époque tout particulièrement?
Je crois que c'est toujours le cas des présidents élus, en fait. Hein. En tout cas, dès lors qu'ils visent
un deuxième mandat.
Un nouveau mandat. Hein. C'est difficile de dissocier les deux. C'est un sujet permanent de réflexion et de préoccupation. Mais la question que je me pose, moi, c'est au fond l'électorat qui a fait de lui un président dans la première élection, un peu à la surprise générale, avec une Hillary Clinton qui, on le disait à ce moment-là, quand même, c'est pas une reconstruction a posteriori, mais n'était pas la candidate idéale pour affronter Trump. Trump qui lui avait une espèce de puissance disruptive, un côté innovant qui nous a beaucoup perturbé, mais qui a créé une saillance incroyable et qui en a fait un candidat anti-système, ce qui là aussi est toujours un très grand, c'est une surprise pour nous de voir que un homme comme celui-là est le porte-parole des petits, des sans-voix, des pauvres gens, etc. Donc ça a fonctionné, mais de gouverner vous fait quand même perdre des soutiens, et donc son électorat ne peut pas avoir être conservé entièrement, et la question qui se pose, c'est comment peut-il conquérir de nouveaux électeurs avec la même campagne? Ça, c'est une vraie interrogation. Je donnerai juste un autre élément de réserve qui ne le concerne pas lui, qui fait qu'il peut gagner. Tout ceci pour vous dire qu'évidemment, moi, je n'en sais rien, mais tout ce qui fait qu'il peut gagner, qui est la situation du Parti démocrate, la manière dont ce parti va se comporter, la manière dont il va approuver le choix qui résultera des primaires, parce que le point commun entre par exemple, Biden et Trump, c'est que les deux partis...
L'un des six favoris pour la primaire démocrate.
Les deux partis, les deux grands partis, là, j'aurais un petit codicille à apporter à ce qui a été dit sur le Parti républicain américain, les deux grands partis sont quand même dans une situation assez déplorable, hein. Ça va très mal chez les démocrates, ça va très mal chez les républicains au plan interne. Trump les a complètement bouleversés, laminés, ils sont très perplexes. Et chez les démocrates, l'offre actuelle, je trouve, est très significative de l'état historique, hein, de bouleversement de ce parti.
La presse américaine qui a beaucoup dit cette semaine que si Trump était rentré si tôt en campagne, c'est parce que dans les semaines qui viennent, l'espace médiatique va être occupé justement par cette primaire démocrate avec six favoris, vous l'avez dit, dont Joe Biden et Bernie Sanders. Bertrand Badie, je n'oublie pas que vous avez consacré publiez un livre il y a quelques mois au grand retour des néo-nationalistes, un livre dans lequel vous expliquiez qu'il y avait au fond une sorte d'obsolescence programmée de ces leaders-là. Alors est-ce que ce principe peut s'impliquer à Trump qui devient candidat pour un second mandat ?
Oui, je me rappelle toujours cette phrase de Tsevan Todorov qui disait « ils n'ont rien à vendre ». Et effectivement, si vous faites le bilan de la diplomatie américaine, ce que Sylvie Kaufmann rappelait très justement tout à l'heure, pour une superpuissance, le bilan est maigre. C'est-à-dire, prenons le seul Moyen-Orient, le plan de paix américain au Moyen-Orient est déjà en train d'échouer avant même d'avoir été annoncé. Sur la question syrienne, les États-Unis n'arrivent pas même mettre un petit doigt dans le jeu syrien actuel. L'Irak, n'en parlons pas. Et surtout, ce que l'on ne voit pas, on s'interrogeait tout à l'heure sur l'Iran et le jeu de l'Iran, c'est que dans cet affrontement entre la super, quelqu'un disait même hyper puissance américaine et l'Iran, l'Iran, du coup, est au centre du jeu régional. Et c'est ce que l'Iran cherche, même avant la révolution islamique, c'est-à-dire s'imposer comme puissance régionale. Et là, je veux dire, M. Trump a deux cadeaux dans ses bras. Un cadeau gigantesque à l'Iran et à la République islamique, qui est plus que jamais la puissance régionale décisive, en quelque sorte, de ce jeu. Et un autre cadeau pour l'ayatollah Khamenei et les durs et les radicaux de l'Iran, pour montrer qu'effectivement, la seule voie possible, c'est l'affrontement avec les États-Unis. Et tout ceci vient, en quelque sorte, surqualifier et surévaluer le jeu actuel de l'Iran dans le Moyen-Orient. Alors, face à cela, la diplomatie néo-nationaliste, bah, effectivement, ses résultats sont tout à fait maigres. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Parce que l'histoire n'est pas terminée. Hein. Mais l'alternative est quand même terrible, parce que ou les Américains ne font rien, ou les États-Unis ne font rien, et c'est un échec style échec irako-vietnamien multiplié par 10, où ils font quelque chose, et là, effectivement, d'une part, ils s'engagent au rebours de ses propres promesses et de son propre narratif, et d'autre part, il met le doigt dans un engrenage qu'il ne sera plus du tout en mesure de contrôler.
Est-ce que ce mauvais bilan géopolitique existera au fond, Sylvie Kaufmann, dans cette campagne pour un second mandat, ou est-ce que seuls compteront les résultats d'un bilan économique, un bilan domestique ?
Crise majeure, notamment militaire. Enfin, si l'affrontement débouche sur le conflit ouvert, là, ça peut compter. Mais sinon, je pense qu'on parlera en effet à la fois d'économie. Elle va bien, mais il faut voir l'envers du décor quand même. Elle va bien à crédit, c'est-à-dire qu'il est en train de faire exploser le déficit budgétaire d'une manière impressionnante. Et puis, ce que les Américains appellent les guerres culturelles, c'est-à-dire tous les sujets, les grands sujets de société. Je veux juste citer deux chiffres. Monique Cantos-Perver parlait de la collecte de fonds. En moins de 24 heures après l'annonce de sa candidature, Donald Trump a levé près de 25 millions de dollars, alors que Joe Biden n'en est qu'à 6 millions. Et l'ensemble
intéressant, en effet.
Voilà, l'ensemble des favoris démocrates n'en sont qu'à 14 millions. Donc, c'est impressionnant.
Merci beaucoup à tous les quatre. Je voudrais vous recommander la lecture du livre de Benjamin Haddad, Le paradis perdu, un essai sur la relation transatlantique. Et c'est Heure qui analyse justement la politique étrangère de Donald Trump. Merci beaucoup à tous les quatre. Pardon, Dominique Régnier, vous vouliez encore intervenir, mais on est très en retard. Merci à Luc-Jean Reynaud et Marine Beccarelli qui a préparé avec moi cette émission. À la technique aujourd'hui, Nasser Moussaoui, où on se quitte avec notre musique de la semaine. This is America de Childish Gambino, qui évoque les brutalités policières et les incidents liés aux armes à feu aux États-Unis. Tout de suite, les bonnes choses de Caroline Brouet et puis Marc Weisman pour Signe des Temps, qui s'intéresse, ça tombe bien, à White. Vous savez, le dernier roman de Bret Easton Ellis, l'auteur d'American Psycho, et justement son dernier essai s'intéresse à cette vision de l'Amérique aujourd'hui. Quant à nous, on se retrouve bien sûr dimanche prochain et nous serons à l'Odéon pour la dernière émission de la saison. Nous serons en public, alors surtout, venez nous rencontrer, appelez le Théâtre de l'Odéon pour vous inscrire ou allez sur leur site internet. Et si vous venez, sachez qu'après l'Esprit Public, nous resterons une heure en plus avec Monsieur Plantu, le dessinateur du Monde, précisément pour l'enregistrement d'une masterclass. Alors venez, venez, je compte sur vous. À dimanche prochain et d'ici là, très bonne semaine à tous à l'écoute de France Culture. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dope.